France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Katia Labeck.
Je suis Marielle Labeck. Je suis la sœur de Katia.
Nous sommes nées toutes les deux à Bayonne. Marielle le 6 mars, moi le 11 mars.
Et nous sommes toutes les deux pianistes.
Katia et Marielle Labeck jouent régulièrement la musique de Philippe Glass, dont la biographie vient de paraître en France, Paroles sans musique.
J'adore ce livre. J'adore ce livre. Vraiment, alors ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et je pense que tout le monde devrait le lire, parce que d'abord pour mieux le connaître. Et quand même, ce livre, on a l'impression qu'il a été écrit il y a 3 siècles. Enfin, c'est fou, non? Vous l'avez lu.
Enfin, moi, je trouve que ça. On n'entend plus sa musique de la même façon
après. Oui, je suis d'accord.
Complètement.
Ouais. Complètement d'accord.
Et tous les préjugés qu'on peut avoir sur le personnage disparaissent.
C'est incroyable.
Ce livre.
Absolument phénoménal.
Vous l'avez rencontré comment?
Nous, on l'a rencontré
plombier aussi. Enfin, il était chauffeur de taxi. C'était tellement dur, même pour gagner de l'argent. On se rend compte qu'il a vraiment été connu tard, en fait. Mais comment il a eu tous ces détails dans le livre, d'ailleurs? On a l'impression que chaque minute est vraiment retracé. Il devait sûrement tenir un livre, les maisons, des déménagements, pas de chauffage, les conditions et tout. Waouh, c'était très touchant, avec sa femme qui faisait des heures de ménage. Donc il comptait, il savait exactement. Pour lui, il fallait d'abord qu'il puisse régler ses musiciens quand il était avec son groupe et tout. Je sais pas, j'ai trouvé tout le...
Mais il est merveilleux, enfin il est toujours comme ça, Philippe, il est vraiment... Incroyable. Et oui, vous me posiez la question comment on l'a rencontré. Vraiment, on l'a rencontré à travers une pièce qu'il a écrite qui n'était pas du tout pour nous, qui sont les 4 mouvements qu'on a adorés. Et après ça, on en a parlé avec Chad Smith à Los Angeles en disant que cette pièce nous avait marqué. Chad a écouté les programmes qu'on avait créés pour King's Place à Londres et où on a joué cette pièce-là. Et l'idée est venue naturellement de lui demander un concerto. Mais quand on est arrivé à Los Angeles en 2015, pour la création du concerto, c'était la première fois qu'on le rencontrait. On avait fait tous les échanges par email, par téléphone, on lui avait posé toutes les questions sur la pièce et tout ça, mais c'était la première fois et on était vraiment très émus, parce que c'est vrai qu'on vivait avec sa musique maintenant depuis des années. On avait commencé à jouer les 4 mouvements depuis 2011. Et voilà, on le rencontrait en 2015 pour faire une création mondiale et c'était un moment très très spécial.
Thank you. Il est beau ce concerto.
Très beau.
Il est beau. Très beau.
Il est vraiment quelque chose de singulier aussi. Ouais. Dès le début, on est complètement.
Absolument. Il y a le troisième mouvement aussi qui est très lent. C'est étonnant de terminer un troisième mouvement comme ça. Et souvent, on joue le quatrième mouvement d'ailleurs des quatre mouvements en bis. Mais c'est une très très belle pièce.
Et vous avez travaillé avec lui, comment il est dans le travail, comment c'est passé?
Mais ce que disait Marielle, très ouvert.
Très ouvert. Après, un jour, je lui posais encore des questions. À chaque fois, je lui disais, mais ça, c'est mieux comme ça et tout. Il me dit, mais voilà, moi, j'écris ce concerto, mais maintenant, je ne suis plus là. Il a dit, maintenant, vraiment, ce concerto vous appartient, c'est à vous. Boy, you play so well, ma musique. Il était incroyable, si on était au piano, on lui montrait, mais oh, you play so well. Il était très content. Non, mais ce que vous voulez. Mais
non, c'est son attitude. Il dit, voilà, moi j'ai écrit, maintenant ça appartient
c'est un peu vrai,
aux interprètes. En fait. C'était l'histoire de la musique à travers les siècles. Les compositeurs se sont développés aussi à une époque où il n'y avait pas justement tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Ça se communiquait à travers des interprètes. La musique de Mozart, de Mendelssohn, de Bach, enfin, les interprètes ont fait passer les siècles à tous ces compositeurs-là, donc ils se situent toujours comme ça en disant ok, c'est dans les mains, c'est dans vos mains, moi je suis heureux que ce soit dans vos mains et c'est à vous, donc vous faites ce que vous voulez.
Mais c'est encore une très très belle rencontre.
Il vient de faire une très belle version avec son arrangeur Michael Riesman des Enfants Terribles, donc qui était une pièce pour trois pianos et qui vient de réarranger à deux pianos pour nous. Donc on va évidemment faire ça aussi. Et il nous a donné deux pièces quand on était à New York, parce qu'on a eu la chance de jouer son concerto avec New York Philharmonie, parce qu'en fait New York Philharmonie n'avait jamais joué la musique de Philip Glass. Et lorsqu'on a dit ça à leur directeur musical, qui est Jaap van Zweden, il a dit « mais c'est pas possible ». Et on a dit que c'était voilà, le numéro du bureau de Philip Glass, appelez-les et vous verrez. Et c'était vrai, l'orchestre n'avait jamais joué sa musique. Donc on a, lorsque Jaap a commencé ses concerts l'année dernière, au mois de septembre, on a joué le concerto. C'était pas la première américaine, c'était la première dans l'Est. On l'avait fait pour Los Angeles 2 ans avant. Et c'était très très émouvant. Enfin, toute la salle s'est levée. Quoi, à la fin du concerto, toute la salle s'est levée quand Philippe est venu saluer sur scène. C'était vraiment un moment très très spécial.
Katia et Marielle Labeck ont rencontré le journaliste et musicologue britannique Igor Toroni-Lalic. Avec lui, elles vont penser un vaste projet autour de la musique minimaliste.
Il avait un projet de faire un mini-festival à King's Place. Et on se connaissait parce qu'il avait fait des grandes interviews pour nous, pour The Times. On avait 3 concerts au Proms dans la même année, ce qui était très rare. Et du coup, il était venu nous interviewer à Amsterdam. Et on avait passé vraiment des après-midi entières à discuter de tout.
On avait fait du shopping avant, on était là, je sais pas, deux chemisiers et tout. Puis j'ai dit, non, attends, ça fait pas sérieux, on va planquer le shopping.
On avait rendez-vous à... Oui, parce que tu sais, on nous avait dit, on vous envoie.
Je savais pas que c'était, je pensais que c'était... En plus, je le voyais pas du tout comme ça, je pensais un peu un vieux monsieur de Times, c'est toujours là. Mais non, il était très jeune, il connaissait plein de choses. Ouais. Et c'est lui qui avait ce projet. Alors moi, tout de suite, je fais, oh, je sais pas si je veux le faire, etc.
En 2010, donc il nous a proposé. Nous, on était au Proms en 2009, on s'est rencontrés là. Et en 2010, il a dit voilà, moi je fais ce festival et je voudrais que ce soit vous qui soyez là les 3 jours et que vous fassiez 50 ans de compositeurs minimalistes. Et on lui a dit attends, c'est vraiment justement les compositeurs qu'on n'a quasiment jamais touchés. Mais on venait d'entendre une pièce de Philippe Glass qu'on adorait, qui est Les Quatre Mouvements. Ouais. Donc ça a fait la base de ça. Et lui nous a fait découvrir Howard Skempton, William Duckworth.
Ouais, beaucoup de
Michael Nyman, c'est...
Michael Nyman, on le connaissait.
On le connaissait.
Donc, ouais. Parce qu'il avait écrit une version de la musique du piano, un concerto pour deux pianos qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer. Du coup, Michael, on l'a recontacté en lui demandant qu'il nous écrive quand même.
Mais Waterdance, je trouvais que c'était bien.
Waterdance, c'est très, très bien.
J'avais pas aimé le chant, la musique du piano.
Ouais.
Il y avait beaucoup de choses, voilà. Mais là, c'est vrai que Igor nous a fait un peu parvenir toutes les partitions. Puis bon, après, ça s'est développé et tout. Mais c'est quand même la première idée, ça, c'est vrai.
Ah oui, c'est lui, complètement. Lui.
Ouais, j'adore cet album. Enfin, je trouve qu'il a vraiment quelque chose.
Oui,
même le graphisme.
Oui, enfin, c'est très joli. Ouais. C'est vraiment beau. Il y avait plein de choses très différentes, un peu étonnantes comme ça. C'était bien.
Les grands entretiens de Katia et Marielle Labeck, France Musique.
Et d'ailleurs, ce projet Katia Moondog, est-ce qu'il est né de la rencontre avec David Chalmin ? Comment ça s'est...
Il est né de la rencontre, effectivement, avec David, mais là, de nouveau, le premier qui nous a parlé de Moondog, c'est Igor Torrenilalich. Au moment où on a fait le choix, il y avait un compositeur, on n'avait plus le temps de le mettre, tout était... Et en même temps, il y avait tellement de choix de pièces possibles qu'on s'est dit, bon, on ne va pas le mettre dans ce projet à King's Place, mais on fera plus tard un disque consacré à sa musique. Il a toujours eu des interprètes merveilleux, comme la pianiste Dominique Ponty, en fait, que je connaissais depuis longtemps. Et on avait choisi de ne pas aller dans la voie traditionnelle de Moondog, parce que justement, beaucoup de gens l'avaient fait avant nous, d'une très très belle façon, mais de faire ce qu'aurait pu devenir Moondog, qui s'était lui-même inventé ses instruments, qui a été tellement novateur. Il a fait dans les années 50, bien avant le mouvement minimaliste, une cassure énorme avec la musique qui était écrite à l'époque. En plus d'être fou d'habiter sur la 6e avenue, de s'habiller comme un viking, mais il a eu le support de gens comme Bernstein, comme Toscanini, qui étaient vraiment ébahis par son talent. Et donc, on avait reporté ça avec David à plus tard. On s'est dit, on va vraiment faire un disque qui ira plus loin avec l'électronique et qui pourra faire référence à beaucoup de pièces de Moondog, parce que des pièces qu'il a fait qui sont tellement différentes les unes des autres. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout à fait par hasard, le disque est sorti en même temps qu'Amoria, mais c'était bien. C'est deux parcours différents et Moondog est un génie. C'est une personnalité hors du commun.
Moi, j'ai pas participé en fait à cet enregistrement parce que je trouvais justement que la musique de Moondog, c'est une. Ce que disait Katia, il était dans la rue, et on peut faire ces musiques avec trois bâtons, et je trouvais que deux pianos, c'était trop somptueux en fait. On a commencé au début, je trouvais que ça marchait pas, que c'était trop riche en fait. Et justement là, le son de justement du 10, c'est un piano, il y a un peu d'électronique, mais c'est pas un son chargé, mais deux pianos, c'était pas vraiment nécessaire. Mais c'est pas parce que j'aime pas sa musique, parce que j'adore même cette chanson du New Amsterdam, je trouve que c'est tellement beau.
enfin, on parle souvent de votre jeu, on parle de vos couleurs pianistiques qui sont différentes, de votre façon d'aborder le clavier qui sont différentes, etc. Et moi, ce qui me fascine le plus, je trouve, dans votre duo, c'est la justesse du tempo, à chaque fois. La question du tempo et de deux cœurs qui battent en même temps, et je trouve que ça s'entend, par exemple, dans la fantaisie de Schubert, ni trop vite, ni trop lent. Enfin, je ne sais pas si la question du tempo est une question qui revient souvent quand vous travaillez.
C'est primordial. Deux pianos, c'est primordial, parce que si on ne va pas sentir le même, si on n'a pas la même pulsation, c'est pas avec des signes qu'on est ensemble, qu'on arrive à être ensemble. Il faut vraiment avoir une pulsation interne qui soit la même, ou qui soit proche. Que ce soit pas exactement la même, parfois des tout petits décalages, moi je trouve que c'est très beau. Un accord trop ensemble, c'est un accord un peu plat pour
oui,
moi.
Ou une
et bien les beaux orchestres, il y a toujours une tout petite différence, c'est quelque chose quasiment pas perceptible.
Ça donne une profondeur à un accord. Mais oui. Après, quand on a un accord de Stravinsky, il faut vraiment qu'ils soient ensemble. Et là, le tempo est tellement, tellement, tellement important. Et puis après, on finit par trouver un peu le nôtre. Notre tempo organique, en fait. C'est ça qui est le plus important. Parce que parfois, on peut jouer avec quelqu'un qui vous donne l'impression d'aller trop vite ou d'aller trop lent. Et on arrive au début, c'est pas évident. Mais après, c'est ce qu'on arrive à trouver. C'est que c'est ce tempo-là et ça peut pas vraiment être un autre. Après, il y a plein de choses qui évoluent dans les phrasés.
Non,
dans les...
Oui.
Et les mélodies, c'est très beau. Quand les mélodies se décalent un peu sur un rythme, au contraire, comme une pulsation, ce que nous avait dit Luciano Berio, même quand on avait joué Schubert pour lui, il dit vraiment, c'est comme une marche, c'est comme un cœur qui bat, et puis après, c'est une mélodie qui se décale, mais c'est extraordinaire, c'est très beau. Mais c'est comme, vous savez, on faisait dans une voiture, parfois, vous êtes avec un chauffeur, il va très vite, vous avez l'impression qu'il va lentement, parce que justement, il le contrôle tellement, et puis parfois, il y a des chauffeurs qui vont pas très vite, et on a tellement peur, on a l'impression qu'ils vont trop vite, je sais pas, c'est une chose de d'équilibre, et de comment on se sent, et oui,
c'est mais ça nous a aidé aussi beaucoup de travailler avec des percussionnistes et des batteurs, énormément, parce que le tempo, c'est pas une chose qu'on peut avoir le même tempo, mais être à peine en avance du temps ou être en derrière du temps. Ça, les big bands américains, ils sont derrière le temps. Mais les batteurs comme Tony Williams, il était toujours en avance du temps. Et c'est ça que Miles aimait beaucoup avec lui, parce que c'était pas le vieux style qui était plus derrière le temps. Il y a des chefs qui sont derrière le temps, il y a des chefs qui sont en avance du temps. Donc, de travailler avec un batteur, c'est quelque chose de très très stabilisant. Moi, j'ai toujours tendance à être en avant du temps et Marielle plutôt en arrière du temps. Donc, c'est vrai que.
Mais on se retrouve, on finit par se retrouver.
Le tempo, on a dû effectivement travailler ça d'une autre façon. Et le mieux, c'est quelqu'un d'extérieur, comme un batteur, des percussionnistes qui jouent avec nous. Et là, on se cale sur eux et c'est facile.
Est-ce que vous diriez que vous avez un rapport presque, alors je ne sais pas comment dire, c'est mystique, religieux, spirituel à la musique, avec ce retour aux racines, ces projets aussi qui sont une sorte d'immersion la plupart du temps dans le son. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est de l'ordre de l'au-delà, ce rapport avec la musique ou pas ?
C'est une jolie question parce qu'on vient de rencontrer Arvo Pärt.
Je voulais en parler.
Et pour la première fois, on a réalisé à quel point il était vraiment dans ce monde-là. On le savait toujours par sa musique. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on transmet nous aussi. Si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est vrai qu'Arvo Pärt est une inspiration de tous les jours, de tous les moments, et il est à part de tout ce monde-là. Et je pense que lui transmet complètement ce sentiment. Il nous a fait visiter son centre qui est extraordinaire, où il y a une église d'ailleurs. Et quand on a ouvert la porte de cette petite chapelle, il y avait un peintre qui peignait vraiment comme au temps de la Renaissance les plafonds dans cette chapelle. Et il était barbu. On se serait cru vraiment dans une autre époque. Et lui, il est un personnage incroyable.
On a enregistré donc sur ce disque minimaliste une très très jolie pièce en fait d'Arvo Pärt. Et il nous envoyait un mot, là aussi, pour dire que c'était vraiment la plus belle version, qu'il avait entendue, que c'était magnifique, qu'il voulait avoir des copies pour lui-même et tout. On était vraiment étonnés, on était heureuses. Et là, quand on est arrivé à Tallinn, on faisait nos débuts en Estonie, on n'avait jamais joué, on a reçu un mot aussi, et puis pour nous inviter, et alors, on était là. On est arrivé dans cet endroit qui est dans une forêt. C'est magnifique, c'est de plein pied, tout est en bois clair, il n'y a pas d'angle droit, tout est rond, tout est très doux. Et donc là, il a toute sa bibliothèque, toutes ses archives, et tout est rangé dans des petits dossiers blancs avec des rubans. C'était hallucinant. Et ça, on a fait ça entre deux répétitions. On a décidé d'y aller. C'était quand même 40 minutes de Tallinn, donc c'était pas. Et quand il est arrivé, c'est vrai, il était comme une apparition. C'était comme un magicien avec ses yeux tellement doux, avec ses. Ouais. Et du coup, il nous a montré son piano. On a joué un peu Franz Schubert pour lui. Il est tellement heureux. Ils ont une petite salle de concert aussi dans cet endroit. Et maintenant, on essaye de trouver une date pour y aller. On fera un concert pour lui.
Il faut faire un concert à Arvo Pärt Schubert.
Ça a une dimension mystique, la musique, ce qu'on s'oublie complètement quand vous êtes embarqué, on pourrait dire, dans cette musique minimaliste. On oublie le temps, on oublie
mais c'est
tout.
C'est vrai, oui, complètement. Ça l'est, bien sûr. Bien sûr.
Complètement.
C'est quelque chose qui parle tellement à des sentiments autres. Et heureusement qu'on peut. La musique a ça de merveilleux qu'elle aide et à s'échapper et à s'envoler et aussi à comprendre le reste du monde.
Le temps suspendu avec la musique d'Arvo Pärt. Ainsi se termine cette série des grands entretiens de Katia et Marielle Labeck. Vous trouverez toutes les références des musiques diffusées sur le site Les Grands Entretiens, francemusique.fr. C'est une émission que vous pouvez podcaster. Gilles Blanchard a réalisé cette série avec Flora Sternadel, Laurent Lucas et Éric Boisset.
À réécouter sur francemusique.fr.